Bonjour à chacun. Voilà. Aujourd'hui, nous avons été les témoins réjouis et reconnaissants des baptêmes de Maria et Simon. Les témoins donc de leur engagement à suivre le Christ, les témoins aussi de leur désir de lui obéir, puisque, ça nous a été rappelé, le baptême répond à la volonté du Seigneur pour ses disciples. Mais la vie chrétienne ne se résume pas et ne s'arrête pas au baptême. Suivre le Christ, suivre ses enseignements, suivre son exemple, lui obéir, c'est aussi le servir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, Jésus dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » On ne peut pas dissocier suivre et servir, ou servir et suivre. Le disciple de Jésus est un serviteur. Et c'est pour cette raison que l'armée du salut a choisi comme slogan « Sauver pour servir ». Sauver pour servir. Chaque disciple de Jésus est donc appelé à servir Dieu. Mais comment répondre à cet appel ? Sauver pour servir. Alors je sens qu'aujourd'hui, sauver pour servir, quelle est ma réponse ? Voilà le titre du message que je vous propose ce matin. Et pour répondre à cette question, j'aimerais rapidement considérer un des quatre passages de la Bible où quelqu'un répond à l'appel de Dieu « Me voici ». On ne va pas les passer en revue, mais on va en choisir un. Et ce que j'aimerais surtout souligner avec force ce matin, c'est que cet appel au service de Dieu concerne tous les disciples, je dis bien tous les disciples de Jésus, et pas juste quelques-uns. Et pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce qu'on a facilement tendance à réduire cette question de l'appel au service à quelques fonctions ou quelques ministères bien particuliers. Le ministère pastoral, bien évidemment, le ministère d'anciens ou de diacres, celui de missionnaires et quelques autres ministères encore. Cependant, comme souligné dans le texte de Jean 12, que j'ai déjà cité, suivre le Christ, c'est le servir. C'est pourquoi tous les disciples sont concernés par cette question du service. Bien évidemment, tous ne sont pas appelés à faire la même chose, à servir de la même manière, c'est une évidence, mais tous sont appelés à servir Dieu, à servir leur maître Jésus. Comment donc répondre à cet appel que Dieu nous adresse ? Voilà la question qui va nous intéresser ce matin, et nous allons donc l'aborder au travers de cet appel au service du prophète Ésaïe. Et nous allons lire quelques versets dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, les 8 premiers versets de ce chapitre. Ésaïe 6, les versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Nous sommes environ en l'an 740 avant Jésus-Christ. C'est l'année, précise le texte, où meurt le roi Ozias, un roi de Juda. Et nous lisons dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26, que le roi Ozias fit ce qui est droit aux yeux de Dieu pendant toute sa vie. Malheureusement, son cœur s'enhardit, dit le texte, à la fin de sa vie, après qu'il eut affermi son pouvoir. Et il fut infidèle à Dieu. Il entra dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel des parfums, ce qui était une tâche réservée au sacrificateur seul. Ozias fut frappé par la lèpre et il mourut lépreux. C'est donc l'année de la mort du roi Ozias qu'Ésaïe, fils d'Amoz, reçoit cette vision majestueuse du Seigneur assis sur un trône élevé. Jean, dans son évangile, au chapitre 12, verset 41, après avoir cité les versets qui suivent, les versets 9 et 10 de ce texte, dira que la gloire qu'Ésaïe a vue est celle de Jésus. Dieu se révèle donc à Ésaïe dans une vision glorieuse, et comme à chaque fois que c'est le cas que Dieu se révèle, l'homme prend non seulement conscience à ce moment-là de qui est Dieu, mais il prend aussi conscience de qui il est lui-même, à savoir qu'il est un pécheur perdu devant Dieu. En effet, généralement, l'homme se croit intrinsèquement bon jusqu'à ce qu'il rencontre son Créateur. Et là, il prend alors conscience de son péché. Et son discours fait écho à celui du prophète au verset 5. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Oui, l'être humain n'a une vision juste de lui-même que dans la mesure où il a une vision juste de Dieu. Et c'est quand il est confronté à la sainteté de Dieu, à sa majesté, à sa gloire, qu'il prend conscience de son péché, conscience de son indignité, conscience de son besoin de la grâce de Dieu. Donc Ésaü se voit tel qu'il est. Il se voit et se reconnaît pécheur perdu. Et conscient d'avoir vu Dieu, il s'attend à mourir sur le champ. Mais ce Dieu glorieux et majestueux est aussi un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce, verset 6 et verset 7, le séraphin qui vole, et puis verset 7, « Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Voilà le salut, toute la grâce, la miséricorde de Dieu illustrée dans cette action symbolique du séraphin. Ésaïe aurait dû être consumé par la gloire de Dieu, mais il reste vivant. Il vit car Dieu lui fait grâce. Car Dieu fait grâce, car Dieu pardonne et car Dieu purifie celui qui se reconnaît pécheur devant lui. Et le plus extraordinaire, sans doute, c'est que dans sa grâce, Dieu appelle le pécheur repenti à le servir. Il appelle à le servir tout en le rendant apte à ce service. C'est le sens de la purification des lèvres du prophète. Ésaïe est maintenant prêt non seulement à entendre l'appel de Dieu, mais aussi à y répondre. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera ?» Pour nous, je répondis « Me voici, envoie-moi. » Dieu appelle et Dieu rend apte Ésaïe à répondre à cet appel. Mais quelle est la nature de sa réponse? Que pouvons-nous apprendre de la réponse d'Ésaïe pour la réponse que nous voulons apporter à Dieu? La première chose que j'aimerais souligner, et la première chose que nous constatons, c'est qu'Ésaïe répond immédiatement, de suite, sans tergiverser, sans argumenter. Sa réponse est immédiate. Ésaïe est disponible pour servir Dieu. Je répondis, me voici, envoie-moi. Que se passe-t-il quand, enfin c'est en tout cas assez souvent le cas, il y a certainement des exceptions, mais que se passe-t-il quand vous appelez par exemple à table un enfant qui est en train de jouer? Alors à moins qu'il n'ait pas mangé depuis quelques jours, ce qui est quand même assez rare dans nos familles je pense, vous risquez d'entendre quelque chose comme « J'arrive, mais attends, j'ai presque fini !» Et il me semble qu'il n'est pas rare que nous donnions un peu la même réponse au Seigneur quand il nous appelle à le servir, dans l'Église par exemple. Ésaïe nous laisse l'exemple d'une réponse rapide, spontanée, sans remise au lendemain. Et il est beau et bienfaisant quand les choses peuvent se vivre de cette manière-là. Ceci dit, Dieu tient aussi compte de nos inerties. Et Dieu nous laisse même cheminer à notre propre rythme. Et puis, il y a des réponses qui demandent de la réflexion. Toutes les réponses ne peuvent pas être spontanées. Il y a des réponses qui demandent de la maturation, des réponses et des engagements qui demandent du temps, tout simplement, et qui n'en seront que plus solides par la suite. Et on peut ici se souvenir de toute l'argumentation, de toutes les tergiversations de Moïse au moment où Dieu l'appelle à retourner en Égypte. Ça ne s'est pas fait comme ça, sur le premier mot de Dieu. Mais on sait quel ministère extraordinaire Moïse a eu par la suite. Il faut dire aussi qu'il y a des réponses rapides. Il ne s'agit pas de faire l'éloge de la spontanéité et de la rapidité, parce qu'il y a des réponses rapides qui ne sont que des feux de paille. Il faut donc être vigilant. S'il ne faut pas reporter au lendemain ce que l'on sait devoir faire aujourd'hui, l'essentiel n'est pas toujours la rapidité. L'essentiel, c'est le sérieux avec lequel nous répondons. C'est la consécration. C'est l'engagement qui dure. C'est la sincérité du cœur. Même si on n'a jamais tous les éléments en main, il est souvent sage de prendre le temps de la réflexion, le temps de la prière, le temps de calculer la dépense avant de bâtir. Notons néanmoins qu'il arrive parfois que la réflexion ait été menée au préalable et ce qui permet alors une réponse plus rapide. Ce que je voudrais dire ici pour finir ce premier point, c'est qu'il n'y a pas de chômage dans le royaume de Dieu. C'est le plein emploi dans le royaume de Dieu pour toutes celles et ceux qui veulent servir Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire, mes amis, avec les aptitudes que le Seigneur nous a données. Et ce temps de rentrée, ce temps de redémarrage des activités de l'Église est toujours un temps propice pour entendre, pour réentendre et pour répondre à l'appel du service. Deuxième chose que nous constatons, c'est qu'Ésaïe répond sans poser de conditions, sans trouver d'excuses. « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Dans un contexte très différent, puisqu'il s'agit de la parabole du grand souper dans les évangiles, racontée par Jésus, il est aussi question d'invitation, il est aussi question d'appel de Dieu. Mais dans cette parabole, l'invitation, c'est avant tout celle du salut. L'invitation à entrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, malgré cette différence, nous trouvons dans cette parabole le genre d'excuse que nous pouvons être tentés d'avancer à l'appel du service que Dieu nous adresse. Je lis cette parabole, Luc 14, 15 à 20. « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !» Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier. » Et c'est pourquoi je ne puis venir. Notons premièrement qu'il y a un fond de légitimité à chacune de ces excuses. Cependant, la légitimité n'est pas la question ici. Il y a un temps pour toute chose et certainement aussi un temps pour s'occuper de nos affaires personnelles. Dieu n'est absolument pas contre cela. Pourtant, il y a un moment où s'occuper de moi équivaut à ne pas faire ce que Dieu attend de moi. Même s'il est légitime de prendre du temps pour soi, chercher le royaume de Dieu doit aussi parfois venir en premier dans la vie du disciple. Vous l'avez compris, je suis ici volontairement un peu provocateur. Ce qui est anormal ou ce qui serait anormal pour le disciple de Jésus, c'est que la priorité ne soit jamais donnée à Jésus, au Seigneur. Oui, il peut arriver parfois qu'à l'instar des personnages de la parabole du grand souper, nous résistions. Alors je ne parle pas là de l'appel au salut, c'est vrai bien évidemment pour l'appel au salut. Mais c'est vrai aussi pour l'appel au service. Nous résistions à l'appel de Dieu, nous rechignons, nous traînons des pieds et nous trouvons toutes sortes d'excuses très valables à nos yeux. Et puis il peut arriver aussi que nous pensions ne plus être concernés par cet appel au service. Prenons l'exemple de l'évangélisation. Jésus dit à ses disciples, nous l'avons relu ce matin, de faire des disciples, d'aller de faire des disciples. Le disciple est donc chargé d'une mission, celle du témoignage de sa foi. Mais cet appel n'est pas simplement adressé au moment de la conversion. Au tout début, il est adressé à chaque disciple tout au long du chemin. Ce n'est pas parce que j'ai une fois témoigné à quelqu'un de ma foi que je ne suis plus concerné par cet appel. Ce n'est pas parce que j'ai une fois invité quelqu'un à venir au culte, à une rencontre de l'Église, que je ne suis plus concerné. Ce n'est pas parce que Dieu s'est une fois servi de moi pour amener quelqu'un à la foi que je ne suis plus concerné par cet appel. En fait, il nous faut sans cesse... Si nous sommes disciples du Christ, il nous faut sans cesse nous examiner, nous remettre en question pour nous rendre tout à nouveau, jour après jour, disponibles au service du Seigneur. S'il y a des excuses légitimes, d'autres le sont moins, d'autant plus que les mathématiques de Dieu ne sont pas toujours les nôtres. Pour nous, efficacité rime avec... compétence. Alors pour Dieu aussi, bien évidemment, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que Dieu a la capacité de rendre efficace même ce qui ne l'est pas à nos propres yeux. Et c'est ainsi que parfois nous faisons valoir nos limites, nos faiblesses comme une excuse valable à nos yeux. Devant l'appel au service, nous répondons « Seigneur, tu sais que je suis timide, tu sais que je manque de confiance en moi. Seigneur, tu sais que je bafouille quand je prie en public. Seigneur, tu sais que je ne parle pas très bien le français. Seigneur, tu sais que je suis plutôt manuel. Seigneur, tu sais que je n'ai pas de diplôme, etc. etc. Seigneur, tu vois tout ce qui me handicape pour te servir. Me voici, mais tiens-en compte et demande peut-être à quelqu'un d'autre d'y aller. » Chers amis, je crois qu'un des sentiments qui bloque peut-être le plus le disciple pour le service, c'est celui de ne pas se sentir à la hauteur. C'est celui de se comparer aux autres. Pourtant, la réalité est tout autre. Notre Dieu est un grand Dieu et un des aspects de la grandeur de Dieu, c'est qu'il utilise des hommes et des femmes comme vous et moi. Avec leurs forces, certainement, mais aussi avec leurs faiblesses, avec leurs petits moyens, à l'image de ce garçon dans les évangiles avec ses 5 pains et ses 2 poissons, qui, une fois qu'ils ont été donnés à Jésus, a pu les multiplier à la gloire de Dieu. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour que Jésus fasse le reste. Oui, une des grandeurs de Dieu, c'est d'accomplir son œuvre en se servant de vous et de moi, tels que nous sommes. C'est pourquoi, face à nos faiblesses, nos manquements, nos incompétences, nos balbutiements devant le service, devant l'appel au service, il est bon de nous souvenir de cela et de nous souvenir en particulier de ce que Paul écrit aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Chers amis, si nous ne sommes pas tous appelés à servir Dieu de la même manière, nous sommes tous appelés à le faire si nous sommes disciples du Christ. Et nous pouvons nous engager chacun avec confiance dans ce service. Parce que Dieu désire se servir de nous tels que nous sommes. Parce que Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons besoin pour accomplir le service qu'il nous confie. Et aussi parce qu'il est le Dieu de l'impossible, qui peut toujours faire fructifier nos petits moyens. Vous connaissez sans doute cette citation de saint Augustin, des pères de l'Église, qui a cette phrase qui résume tout ce que je viens de dire. « Dieu donne ce qu'il ordonne. » Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, il vous donnera les capacités, les moyens de le faire. Je termine avec une troisième et dernière remarque que je tire de notre texte et qu'Ésaïe répond personnellement. « Me voici, envoie-moi. » Alors vous allez me dire, mais oui, bien sûr, personnellement. Ah oui, attendez. Il y a quelque chose d'assez étrange qui peut parfois se passer face aux besoins du royaume de Dieu. Nous sommes généralement tous, plus ou moins, doué pour voir comment tel ou tel service, tel ou tel besoin conviendrait tellement bien à telle ou telle personne dans l'Église. Dieu appelle et nous disons, comme je l'évoquais dans le point précédent, « Oui Seigneur, je suis là, me voici, mais envoie-le lui, envoie-la elle, elle fera tellement mieux. Il parle si bien de toi. Elle a un témoignage tellement percutant. Elle prie avec tellement d'aisance. Il a tellement de facilité dans son rapport aux autres, etc. » En fait, tout cela est certainement vrai concernant les autres, mais là n'est pas la question. La question, c'est moi et mon engagement. La question, c'est ma réponse à l'appel que Dieu m'adresse à le servir, pas la réponse des autres. Je ne suis responsable que de moi-même et certainement pas des autres. Et vous savez, ce qui est paradoxal, c'est qu'il peut même nous arriver d'avoir bonne conscience quand quelque chose n'est pas fait, parce que bien évidemment, c'est l'autre qui aurait dû le faire. C'est l'autre qui n'a pas répondu à l'appel que le Seigneur lui adressait. Ce même phénomène peut se produire quand nous écoutons la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons facilement voir comment tel verset, telle parole s'applique tellement bien à cette situation et à cette personne, et on ne se sent pas concerné. Ah, c'est pas pour nous, hein, c'est pour cette situation-là. Si le contexte d'Ésaïe et son message sont radicalement différents des nôtres, la réalité de l'appel au service et la réponse que Dieu attend de chacun de ses enfants sont les mêmes. Aujourd'hui encore, Dieu appelle ses enfants, chacun de ses enfants à le servir. Il appelle aujourd'hui au salut. Et il appelle aujourd'hui à le servir. Alors comment est-ce que nous répondons à ces appels? Comment est-ce que je réponds à cet appel? Comment est-ce que vous répondrez aujourd'hui, demain et tout au long de cette nouvelle année scolaire qui s'ouvre devant nous? En cette période de rentrée, il est bon de sonder notre cœur. Il est bon de sonder notre agenda et puis de nous poser la question : quelle place vais-je donner à Dieu ? Les occasions de servir Dieu dans l'Église ne manquent pas. Puisse Dieu nous accorder de répondre à la suite d'Ésaïe : me voici, envoie-moi. Amen.